Un temps où l'Afghanistan n'était pas associé à la guerre et l'insécurité. Plongeons le temps d'une émission dans l'Afghanistan de l'entre-deux-guerres du XXe siècle, un temps béni pour les archéologues et les habitants de ce pays de montagnards qui venait d'accéder à l'indépendance en 1919. Un exemple précoce et rare dans l'histoire complexe du Moyen-Orient. Annick Fenet, historienne des civilisations antique, a eu accès aux archives personnelles d'Alfred Fouché, grand archéologue et historien de l'art gréco-bouddhique. Il fut élu membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1928, au fauteuil de son maître, Émile Senard. Annick Fenet, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes historienne des civilisations antiques et vous avez publié un grand livre, un gros livre, qui s'appelle « Documents d'archéologie militante, la mission Fouché en Afghanistan 1922-1925 ». C'est un travail colossal, c'est publié dans la collection des mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et on peut le trouver en vente à la librairie de Bocard. Que représente ce grand travail de publication de documents des archives personnelles de Fouché ? Combien de temps avez-vous travaillé à cette publication ?
Entre un an et demi à peu près de travail assidu. Ce qui est intéressant dans cette publication et qui se démarque des autres publications de documents d'archives ou de correspondances conservées d'autres archéologues, c'est qu'ici on a un choix polyphonique de correspondances, c'est-à-dire qu'on a des lettres écrites par Alfred Fouché lui-même, bien sûr, mais également des lettres qui ont été reçues par lui et des lettres échangées entre différents personnages. Au total, environ 70 correspondances sont représentées à l'intérieur de ce volume. Donc on a une vision polyphonique d'une mission archéologique particulière, donc celle de Fouché en Afghanistan.
Juste avant de continuer, pourquoi ce titre d'archéologie militante ?
Alors cette expression d'archéologie militante est une expression que l'on retrouve à plusieurs reprises dans la correspondance d'Alfred Fouché et dans le milieu orientaliste. On la trouve également chez certains classiques comme par exemple Louis Robert ou Charles Picard. En fait, l'archéologie militante semble désigner une archéologie de terrain par opposition à une archéologie, on va dire, de cabinet qui est faite à Paris dans les bibliothèques ou dans les salons des archéologues académiciens ou des grandes institutions françaises.
Donc là, ce sont des voyageurs, ils vont sur le terrain, ce sont des scientifiques, des orientalistes et ils en reviennent avec des sources, des documents pour poursuivre leurs recherches.
Alors Alfred Fouché, lui, est allé en Afghanistan, donc il y est resté durant plus de 3 ans et il a publié effectivement sa mission, mais beaucoup plus tard, durant la Seconde Guerre mondiale, une publication en 2 volumes qui s'intitule « La vieille route de l'Inde de Bactre à Taxila ». Donc il a ramené effectivement...
Bactre, c'est des fouilles. Donc,
ce sont les fouilles qu'il a menées donc, sur le site de Bactre, qui se trouve aujourd'hui dans le nord de l'Afghanistan, près de Mazar-e-Sharif.
Qu'a un rapport avec Alexandre le Grand ?
Oui, bien sûr. Alors en fait, les archéologues français et étrangers étaient intéressés par le site de Bactre parce qu'en fait, ils suivaient la route d'Alexandre en Asie. Donc c'était suivre l'Europe et le classicisme grec jusqu'en Orient, jusqu'en Asie centrale.
Et le deuxième site qu'il a exploré en Inde ?
Il ne l'a pas exploré à proprement parler. En fait, ce que publie Fouché, parce que les fouilles de Bactre ont donné très peu de résultats, ce qu'il publie en fait, c'est un traité de géographie, on pourrait dire historique, où il étudie les voies de passage entre l'Inde et l'Afghanistan, les voies de commerce, les voies de communication et les voies de transfert culturel de l'Antiquité, et évidemment qui ont continué à exister et qui existent encore de nos jours.
En quoi consiste à l'époque une mission scientifique archéologique dans les années 20 ?
Alors c'est une mission qui est donc commanditée la plupart du temps par le ministère de l'Instruction publique avec un service qu'on appelle le service des missions. Alors ces missions peuvent être également financées ou en tout cas un peu pilotées, on va dire, par le ministère des Affaires étrangères et aussi par des grandes institutions telles l'Académie des inscriptions et belles-lettres, bien sûr. Alors, ces missions, elles sont constituées le plus souvent d'un archéologue qui part donc sur le terrain et qui, sur place, peut éventuellement mener des fouilles à plus ou grande échelle en fonction des crédits dont il dispose. Et donc, en fonction de ces crédits, il va faire appel à un grand nombre d'ouvriers pour les fouilles ou au contraire, comme c'est le cas d'Alfred Fouché qui dispose la plupart du temps de très peu de moyens, il va faire du travail de prospection sur le terrain, seul ou éventuellement accompagné d'un architecte ou d'un assistant qui vient le rejoindre.
Alfred Fouché était un historien de l'art. Qu'est-ce qu'il distingue en tant qu'archéologue ?
Alfred Fouché est un historien de l'art, oui, c'est spécialiste de l'art gréco-bouddhique, c'est aussi un sanskritiste, un spécialiste de l'histoire du bouddhisme. Archéologue, alors là, tout le monde n'est pas d'accord. Les spécialistes aujourd'hui reconnaissent qu'en fait, Alfred Fouché avait une petite expérience d'archéologue avant d'arriver en Afghanistan et qu'effectivement, la manière dont il a mené les fouilles à Bactre n'était peut-être pas le fait d'un personnage rompu à ce genre d'exercice et qu'en fait, il n'a peut-être pas fait les meilleurs choix dans les sondages qu'il a pratiqués à Bactre. Donc effectivement, c'est un archéologue, mais c'est avant tout un homme curieux, un homme de terrain, mais effectivement, peut-être moins archéologue que certains de ses collègues.
En quoi consiste ce métier d'archéologue dans l'entre-deux-guerres ?
Le métier d'archéologue, en fait, les archéologues de cette période, il y en a de différentes sortes. Vous avez effectivement les archéologues de cabinet dont je parlais tout à l'heure, qui en fait vont sur le terrain et la plupart du temps ont une formation plutôt littéraire, plutôt philologique et voient les sites au travers des sources antiques qu'ils maîtrisent effectivement très bien. Après, vous avez d'autres personnes qui effectivement ont une pratique de terrain beaucoup plus intéressante, beaucoup plus chevronnée et ils arrivent effectivement à mener des travaux de prospection, de fouilles avec un souci de la stratigraphie particulièrement important.
Quels sont les liens qu'entretient la France de la Troisième République avec un pays lointain comme ça, l'Afghanistan à cette époque-là ?
Les liens avec l'Afghanistan sont tout à fait intéressants à examiner parce qu'effectivement, l'Afghanistan donc, a pris son indépendance en 1919 à la faveur donc, de la Première Guerre mondiale. Et l'Afghanistan, donc, volontairement, s'est tourné vers la France justement pour tourner le dos, on va dire, à l'Angleterre. Et donc, la mission Fouché est à la fois une mission archéologique mais aussi une mission diplomatique parce qu'Alfred Fouché se trouve en fait en mission en Inde où il travaille avec les Anglais de l'Archaeological Survey of India. En 1921, il s'apprête à rentrer à Paris et à ce moment-là, il reçoit un télégramme de son ami d'enfance Philippe Berthelot, qui est secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, et qui lui dit « Si tu es prêt à partir en Afghanistan, envoie-moi un télégramme de réponse. Oui, ça me suffira, je te tiendrai informé ensuite. » Donc, Alfred Fouché accepte. Et en fait, pendant un an, Alfred Fouché va faire le détour par la Perse pour entrer en Afghanistan parce qu'il ne peut pas dire à ses amis anglais, qui refuseraient, qu'il veut rentrer en Afghanistan par l'Inde. Donc, pendant un an, il y a un espèce de jeu de chat et de souris. Alfred Fouché est dans une mission secrète, diplomatique. Et donc, quand il entre en Afghanistan avec sa femme, il faut le souligner, il est accueilli comme un représentant officiel du gouvernement français.
C'est presque une entrée d'espion, j'allais dire.
Alors, certains se sont effectivement posé la question, est-ce que Fouché était un espion au service du gouvernement français ? Non, sincèrement, après avoir examiné toutes les archives qu'il concerne, je pense vraiment que la réponse est non. Alfred Fouché, par contre, comme beaucoup de ses contemporains savants et orientalistes, était favorable à une forte influence française en Orient. Et donc, lorsqu'il rentre en Afghanistan, il se sent investi d'une mission, mais d'une mission culturelle, pédagogique, d'une mission de civilisation. Et il n'y rentre pas comme espion, mais dans l'idée de faire profiter le nouvel État afghan de ses connaissances et de ses compétences. Et d'ailleurs, quand il arrive à Kaboul, les initiatives qu'il prend, c'est de créer un musée, de créer une espèce de service archéologique et donc de préserver, de mettre en place les moyens de préserver le patrimoine afghan.
Qu'est-ce qu'il a protégé ?
Il a en tout cas mis en place le musée avec un système à l'européenne. Il a donné des consignes aux différents gouverneurs des provinces pour essayer de leur faire prendre conscience du patrimoine et de la manière de sauvegarder le patrimoine. Alors, est-ce que le résultat a été considérable ? C'est difficile à dire, puisqu'en fait, le roi Amanoula, qui était très favorable à l'Occident et qui a donc demandé aux Français de l'aider dans cette tâche, a été renversé quelques années plus tard.
Lui-même, sur place, au moment de ce séjour en Afghanistan, quel rapport entretenait-il avec les milieux archéologiques présents sur place, les autres archéologues ?
Alors, en fait, il était seul.
D'autres pays ou pas ? Ah, il était seul.
Alors... C'est justement, alors la spécificité de Fouché, c'est qu'en fait, quand il rentre en Afghanistan, il négocie, et ça c'est le gouvernement afghan qui le lui demande, il négocie une convention archéologique franco-afghane. Et cette convention qui est donc imitée du modèle de la convention franco-perse, qui existe donc préalablement, le roi Amanullah veut absolument que cette convention soit unique, c'est-à-dire que la France a l'exclusivité totale des recherches archéologiques. Alors Fouché a tout fait pour combattre cette clause parce qu'il était contre. Il se rendait bien compte que la tâche était immense, que lui-même et la France ne pourraient pas couvrir tout le territoire. Et il était aussi contre cette clause parce que son meilleur ami, Aurel Stein, qui était un archéologue d'origine hongroise et naturalisé anglais, souhaitait avec lui depuis longtemps fouiller en Afghanistan. Et donc, cette clause empêcher son ami de venir participer aux travaux. Et donc Fouché a tout fait pour la combattre, mais en fait les Afghans n'ont jamais voulu renoncer à cette clause d'exclusivité et la France donc a été seule à exercer des travaux en Afghanistan durant l'entre-deux-guerres.
Et c'est quasiment unique. C'est donc habituellement, on pense que les archéologues sont là pour évidemment faire des découvertes scientifiques, mais qu'ils sont là à la demande de leur pays occidentaux qui les envoient sur place. Et ils sont généralement en rivalité les uns avec les autres. Et là, on a une situation très favorable à la France, d'un pays qui vient d'accéder à l'indépendance. Est-ce qu'on a des témoignages dans la documentation personnelle d'Alfred Fouché sur cet Afghanistan qui naît?
Les lettres écrites par Alfred Fouché en Afghanistan sont effectivement très riches en détails de la vie quotidienne, de la géographie du pays et surtout des populations, des différentes ethnies, de leur langue, des denrées, de l'état de Kaboul, l'état des marchés. Il n'y a pas de banque, par exemple. L'état de la population, de la vie économique, de la vie religieuse aussi, puisque l'islam est déjà très fort, très pesant en Afghanistan. Alors, ce qui est également très intéressant dans ces correspondances, ce sont les lettres de Madame Fouché, puisqu'elle a accompagné son mari. Et Madame Fouché a écrit à sa mère pour lui raconter, on va dire avec un effort de vulgarisation, ce qu'elle voyait, ce qu'elle vivait. Et donc là, il y a une foule d'informations sur la vie afghane qui est très intéressante. Même si ces lettres ne sont pas toujours dénuées de certains a priori, bien sûr, européens de l'entre-deux-guerres. Il ne faut pas occulter cet aspect-là non plus.
Un exemple ?
La réaction de Madame Fouché, qui est malgré tout assez féministe, par rapport au voile. Elle ne supporte pas, elle ne comprend pas que les femmes puissent être voilées. Et donc, le temps qu'ils ont passé en Perse avant de rentrer en Afghanistan, et ce qu'elle voit en Afghanistan, la met souvent hors d'elle, parce qu'elle ne comprend pas comment on peut obliger la femme à sortir voilée.
Quel rapport, cette fois, Alfred Fouché entretenait-il avec les milieux diplomatiques ?
Ces rapports sont assez complexes parce qu'en fait, donc suite à l'entrée d'Alfred Fouché en Afghanistan, il y a eu donc discussion à l'Assemblée nationale, enfin à la Chambre des députés et puis au Sénat, et donc a été votée en septembre 1922 la création d'une légation française en Afghanistan, puisqu'il n'y avait pas d'ambassade française à Kaboul. Donc ça a été voté en septembre 1922 et en fait le premier ambassadeur, le premier ministre, dit-on à l'époque, ministre français, n'arrive à Kaboul que 6 mois plus tard. Donc dans ce laps de temps, c'est en fait Alfred Fouché qui sert, on peut dire, de diplomate pour la France à Kaboul. Et donc, à ce titre, il fait partie de la vie européenne des expatriés à Kaboul. Donc, il participe très souvent aux petites réceptions, aux petites tea parties qui sont organisées par la légation anglaise. Il y a également des conflits avec la légation allemande, puisque les Allemands sont présents à Kaboul. Donc, on voit aussi, à travers ces lettres, la manière dont les petites guerres et les tensions européennes se reportent sur le terrain à Kaboul, dans des conditions pratiques qui sont effectivement très différentes de celles qu'on peut trouver à Paris ou dans une capitale européenne. Mais en même temps, tout ce monde-là se voit et se côtoie parce qu'ils ont malgré tout une culture commune et qu'ils sont quand même contents d'échanger, de se retrouver et de se rendre des services les uns et les autres.
Quel héritage laisse-t-il en Afghanistan ? La délégation archéologique française en Afghanistan existe toujours ?
Oui, alors la délégation donc, qui a été créée, on va dire, avec la convention archéologique franco-afghane existe toujours. Il y a eu une interruption, évidemment, pendant les années difficiles d'occupation russe. La délégation archéologique française en Afghanistan existe toujours. Elle mène encore des travaux sur le terrain et il faut saluer l'œuvre de ces archéologues qui travaillent dans des conditions particulièrement difficiles et qui obtiennent d'immenses résultats. Et ils viennent régulièrement communiquer les résultats de leurs travaux dans des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Lettre d'Eugénie Bazin-Fouché à sa mère. Bactre, le 16 mars 1924. Chère mère, dans le cours de la lettre. La pluie gêne un peu Alfred qui est obligé de ne gratter la terre que les jours où le ciel ne lui déverse pas ses torrents d'eau sur la tête. Nous nageons dans une glaise collante, glissante, gluante, puante, mais combien noble, puisqu'elle est faite de débris des villages bactriens célèbres il y a déjà 2000 ans. J'appelle ça la bouillie d'histoire. Et Alfred fait les gros yeux. Alors, j'essaie de l'histoire en bouillie, mais cela ne réussit pas mieux, car il soupire et dit que ce n'est que trop vrai. Ruine construite en briques crues, fondue par des siècles de neige et de pluie, qu'est-ce qu'un archéologue peut bien en faire ? Annick Fenet, on a là un exemple des difficultés et des contraintes sur place, sur le terrain. Était-ce normal à l'époque ?
Oui, alors Alfred Fouché se retrouve dans un contexte particulièrement difficile. Il est seul dans un milieu géographique qui est effectivement très sec, avec des saisons des pluies abondantes. Et effectivement, ce qui étonne beaucoup Alfred Fouché, c'est qu'il ne trouve pas de construction en pierre véritable. Et donc, il doit fouiller des sites qui sont constitués d'argile. Et pour lui, il n'y a pas véritablement de cité. Donc, il ne comprend pas véritablement ce qu'il fouille et il considère qu'il n'obtient aucun résultat.
Bon, il en obtiendra.
Un résultat négatif. Mais c'est un résultat quand même.
Voilà, il revient pas et bredouille de cette grande mission en Afghanistan. Merci Annick Fenet.
Merci à vous.